Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nicolas Dose. Éclairage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Saint-Cernin. Bonjour Bertrand Saint-Cernin.
Oui, bonjour.
Alors vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en mai 2002 dans la section philosophie. Auparavant, vous avez été notamment un recteur d'académie et d'université en Bourgogne, mais aussi en Lorraine et même à Paris, après un passage par le ministère de l'Éducation.
À Créteil.
Après un passage quand même par le ministère de l'Éducation nationale, c'était dans les années 80. Et dans les années 90, vous avez encore été membre du Conseil national d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, c'est bien ça?
Tout à fait.
Alors j'ai donc souhaité vous avoir à mes côtés pour réagir à la réflexion en cours sur notre système éducatif français, aussi l'avenir de l'école. Mi-octobre, tout le monde sait que Claude Tellot a été le président du débat national pour l'école. Il a remis son rapport au Premier ministre à cette date-là. Au total, il aura quand même fallu un an de travail, l'audition de centaines d'experts, l'organisation de 26 000 débats qui ont réuni des professeurs, aussi des parents d'élèves, pour au final rédiger ces 150 pages intitulées justement « Le miroir du débat ». L'objectif est de réformer l'école, je cite, « pour la réussite de tous les élèves ». Justement, Bertrand Saint-Cernin, cette ambition, la réussite de tous les élèves, ça vous semble pas un petit peu utopique? Question très ouverte pour commencer.
Non, je crois pas que ce soit utopique de désirer que tous les élèves atteignent le mieux possible l'ensemble des capacités qu'ils sont susceptibles d'avoir. Et surtout, je pense que il ne faut pas se limiter à des considérations individuelles, mais se dire qu'il y a des conditions sociales, collectives, qui facilitent ou qui inversement peuvent entraver cette réussite. Et donc il est tout à fait naturel et tout à fait positif de réfléchir sur l'ensemble des mesures susceptibles de permettre aux élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Alors on va en reparler. L'une des grandes idées de ce rapport, c'est de recentrer l'école sur sa mission première. Et comment définir la mission première de l'école? Quelle est-elle selon vous?
Je crois que il y a tout d'abord un certain nombre. Tout d'abord, quand on regarde les ambitions de l'école élémentaire, elles sont déjà très vastes, puisqu'il y a au moins 8 disciplines fondamentales depuis plus d'un siècle qui sont enseignées. Et on s'aperçoit, ça a été mon cas, j'ai été professeur à l'époque où il y avait un DEUG spécial pour les instituteurs. J'ai enseigné la philosophie dans une école normale à Arras. Et quand on prenait les notions fondamentales que les enfants devaient acquérir à l'école primaire, et qu'on essayait de voir quelle était l'origine, la nature de ces notions, on s'aperçoit que ce socle dit élémentaire est d'une extraordinaire richesse, déjà.
Donc il n'y a pas une mission, mais plusieurs missions.
Il y a, non, la mission, la difficulté, c'est qu'il faut coordonner tous ces efforts, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir lire, de savoir écrire, de connaître les bases de l'arithmétique, de la géométrie, mais aussi de l'histoire, des sciences naturelles. Regardez l'effort de l'Académie des sciences pour redéfinir par la main à la pâte ce qu'il est nécessaire de connaître dans les sciences naturelles. Toutes ces choses-là sont liées entre elles. Mais ce que le rapport Tellot, mais que le bon sens commande de voir, c'est qu'il est important de ne pas laisser en cours de route un ensemble d'élèves, une minorité d'élèves, mais une minorité très importante, qui n'aurait pas cette capacité d'apprendre justement l'ensemble de ces disciplines.
Donc à la base, on est d'accord sur l'idée qu'il y a un socle dans lequel on peut mettre la lecture, l'écriture, même la parole peut-être.
C'est bien évident. De toute façon, l'idée de socle, c'est l'idée de conditions, je dirais, nécessaires pour les autres apprentissages. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que, par exemple, tout le monde admet bien que dans la construction des maisons, la tuile romaine a 2800 ans d'existence, elle a une forme, personne n'a l'idée de la changer. Je porte un nom toulousain, la brique de Toulouse a été définie à l'époque gallo-romaine, ses dimensions n'ont pas changé depuis 2000 ans. La difficulté, c'est d'être à la fois un ancien et un moderne, dans toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes fondamentales qui probablement varient peu parce qu'elles tiennent à la physiologie, à la nature de la mémoire, à l'esprit d'invention, etc. Et il y a d'autre part une société qui change, donc des illustrations différentes à donner, etc.
Alors c'est essentiel ce que vous dites là, parce qu'on a le sentiment qu'à la suite de ce rapport tend à intervenir un nouveau débat entre des gens qui auraient une vision plus progressiste des choses, et puis ceux qui auraient une vision plus conservatrice, certains diraient même traditionnaliste de l'enseignement. D'ailleurs, le magazine Le Point, fin septembre, posait en une cette problématique: faut-il réhabiliter les méthodes d'autrefois? Alors ils pensent évidemment à la dictée, aux punitions, aux récitations, à l'uniforme, au pensionnat. Est-ce que la question de l'école aujourd'hui est en train finalement de tourner vers un débat qui serait pervers, car à mon avis stérile? Selon vous, est-ce que c'est le risque qui existe aujourd'hui?
Ça peut toujours être un risque, mais je crois qu'il est facile, me semble-t-il, à éviter si on réfléchit à des données extrêmement simples. Je prends la plus simple d'entre elles. Quand on définit par exemple, le service d'un professeur. On dit que quand un professeur, je prends un professeur du second degré, mais c'est la même chose dans l'école élémentaire, quand il fait une heure de cours devant les élèves, il a besoin en général de deux heures, soit pour les corrections d'exercices, soit pour la préparation. Il en va de même pour les enfants. Ils ont besoin, quand ils ont tant d'heures de cours, ils ont besoin probablement d'un nombre équivalent d'heures pour apprendre, faire des devoirs, apprendre les leçons, intérioriser ce qu'ils ont fait, le répéter, l'assimiler. Les méthodes, si par tradition on entend le fait que ce sont là des constantes, je dirais presque biologiques, qui tiennent à la nature de ce que nous sommes, il est évident qu'il y a une part de tradition et d'expérience dans l'enseignement, c'est bien évident. Donc, ça n'est pas une querelle des anciens et des modernes, c'est une simple réflexion sur ce qu'il y a d'invariant ou de constant dans la nature des enfants et dans la nature des adultes.
Parce qu'on entend régulièrement nos parents et grands-parents dire « Ah, à notre époque, quand on rentrait en sixième, on savait lire, on savait compter, on connaissait au moins 10 fables par cœur de La Fontaine, comme si aujourd'hui plus rien de tout ça n'existait et qu'on s'enlisait petit à petit dans une véritable crise. » Est-ce que c'est votre avis, ou est-ce que tout simplement, il y a 50 ans, on n'avait peut-être pas les mêmes exigences l'âge de la sixième que celles qu'on peut avoir aujourd'hui?
Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que si on prend les témoignages que nous avons des gens vivants sur l'enseignement primaire qu'ils ont reçu, la plupart, vous interrogez quelqu'un qui a 70 ans ou plus, il vous répond systématiquement que dans sa classe, tout le monde savait lire et écrire. Si on regarde alors les archives, et on en a, à travers les rapports que les inspecteurs d'académie faisaient au préfet tous les ans, et je me suis intéressé par exemple à ces rapports tels qu'on les trouve dans les bibliothèques ou dans les archives du ministère de l'Éducation nationale pour les années 1910. Pourquoi 1910? C'est qu'en 1912, très exactement, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts a prescrit que l'ensemble des conscrits français, c'est la principale source d'information, auraient des tests de lecture, d'écriture, etc., sur le modèle de ce qui se faisait en Suisse, dans l'armée helvétique, depuis 1876.
Alors quel était ce modèle?
Et c'était le modèle. Le modèle de l'époque, c'était les Suisses, l'armée suisse. Et alors, on a demandé, donc on a vu quel était, on a demandé combien il y avait d'illettrés. Et quand on regarde les chiffres dans les départements qui m'intéressaient, je suis mi-breton, mi-ariégeois, j'ai regardé en Ariège, en Haute-Garonne, dans le Finistère, le chiffre d'illettrés est très bas. Cela veut dire, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants avaient le certificat d'études.
En 1910, on est d'accord.
Alors en 1910, en revanche, dans ces mêmes départements où on déclare quelques dizaines d'illettrés, il n'y a que, en Haute-Garonne, il y avait près d'un tiers de la classe d'âge qui avait le certificat d'études. En Bretagne et dans la plupart des autres départements, c'est entre un quart et un cinquième. Donc les trois quarts des enfants sortaient de l'école ayant appris beaucoup de choses, mais il n'avait pas un diplôme, il n'avait pas le certificat d'études.
D'accord, mais d'après l'observation que vous avez pu faire de cette époque-là et de l'époque que nous vivons, est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont aggravées et que les jeunes de 6e aujourd'hui n'ont pas les armes suffisantes pour commencer dans l'existence?
Non, je pense simplement...
C'est le discours qu'on entend quand même très souvent.
Non, mais les méthodes, quand vous regardez par exemple à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait un livre du maître. Si vous regardez les livres du maître les plus en usage il y a 90 ans ou 100 ans, en général, par exemple, pour la fin de l'enseignement primaire, c'est-à-dire le CM2, les livres du maître que j'ai pu trouver ont en général 4000 pages. C'est-à-dire que les instituteurs avaient un programme, semaine après semaine. À cette époque-là, l'année scolaire comportait 36 semaines d'enseignement et la semaine d'enseignement comportait 10 demi-journées, c'est-à-dire que le programme était fait sur 360 demi-journées. Et la chose qui est la plus étonnante, c'est que les méthodes en usage à l'époque sont des méthodes qu'on appellerait aujourd'hui français langue étrangère, c'est-à-dire que le maître donnait des exercices, faisait répéter aux enfants, corriger les devoirs, faisait reprendre les devoirs qui étaient trop mauvais pour que l'enfant ne reste pas sur une impression d'échec. Et vous aviez...
C'est du soutien scolaire, ça.
Sur les demi-journées, ça faisait... C'était ouais. Partie intégrante de l'enseignement. Et pourquoi je dis français langue étrangère? Mes parents m'ont mis dans une école primaire en Ariège, dans un village d'Ariège, en 1936, pendant 2 mois. Et j'ai retrouvé, 60 ans après, une de mes camarades de classe. Et je lui ai dit combien étions-nous dans cette école d'Orgibé à avoir le français pour langue maternelle. Nous étions 2. Et moi-même, je me souviens de m'être senti en état d'infériorité parce que je n'étais pas bilingue. Je ne parlais pas le gascon complètement. Mmh. Eh bien, c'était la même chose en Bretagne. Dans le Finistère, les enfants arrivaient en classe à 6 ans. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas vraiment bien le français. Au bout d'un an, c'était terminé.
Alors justement, l'une des propositions phares du rapport de Cotello, c'est d'augmenter le soutien scolaire en proposant aux professeurs de faire des heures supplémentaires qui leur seraient payées comme des heures supplémentaires. Est-ce que là, il y a une vraie solution?
Mais écoutez, il faut réfléchir à l'histoire. Quand vous regardez, c'est pas du soutien scolaire. L'enseignement, c'est faire des cours, mais c'est aussi vérifier, faire réciter les leçons, faire des devoirs et les corriger. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'enseignement normal. Et tous mes collègues enseignants du premier degré et du second degré le savent aussi bien que moi. Et c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur. Quand nous donnons un mémoire de maîtrise ou quand nous faisons faire une thèse, nous passons aussi beaucoup d'heures, beaucoup de dizaines d'heures à corriger des fautes d'orthographe.
Merci Bertrand Saint-Cernin. Vous restez avec nous. Quel avenir pour notre école? C'est donc le thème d'éclairage aujourd'hui avec l'académicien Bertrand Saint-Cernin sur Canal Académie. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Dose.
Suite d'éclairage, je reçois cette semaine Bertrand Saint-Cernin pour évoquer l'avenir de notre école, un sujet qui a donné lieu au fameux rapport Tello, remis mi-octobre à Matignon. un sujet de société, un débat aujourd'hui qui oppose plusieurs camps, plusieurs partis, notamment ceux qui ont une vision plutôt moderne de l'école, ceux qui souhaiteraient quelquefois un retour en arrière. Donc on évoque ça avec Bertrand Saint-Cernin. Pour repartir sur une question très ouverte à nouveau, Bertrand Saint-Cernin, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il y a une crise de l'école et qu'il y a donc des réformes sont nécessaires? Le mot réforme, on nous en parle tout le temps. Peu de gouvernements osent aller jusqu'au bout de leur projet en matière de réforme de l'enseignement, dans la mesure où ils hésitent à affronter les corporatismes syndicaux enseignants. Mais à côté de ça, est-ce que selon vous, une réforme est nécessaire et est-ce qu'une crise il y a?
Vous savez quelle est la signification du mot « crise » La crise, dites-nous. La crisis en grec, c'est le moment où on porte un jugement et où on décide d'une action. Et par conséquent, on peut dire que l'ensemble de la vie et la partie la plus importante de la vie, qui est la formation des enfants et des adolescents et la formation continuée des adultes, comporte nécessairement des crises. C'est-à-dire comporte nécessairement une évaluation de la situation et des actions qui peuvent changer de forme suivant le temps. Le premier problème, c'est donc celui de l'évaluation. Et le problème de l'évaluation est en France un problème délicat, parce que, comme on a pu le constater au cours des 15 dernières années, nous sommes réticents pour évaluer au sens banal du terme, c'est-à-dire examiner quels sont les résultats, les performances...
Des élèves et des professeurs.
Non pas des élèves et des professeurs, mais en général, les tests les plus habituels, puisque nous parlions de la lecture, de l'écriture, du calcul, les tests les plus simples concernent la lecture, l'écriture, le calcul, mais peuvent concerner aussi d'autres choses. Alors, la situation de l'enseignement élémentaire français à cet égard... est une situation qui n'est pas très bonne. Nous sommes au 13e rang dans les dernières enquêtes internationales faites après 4 années d'enseignement primaire. Nous sommes au 13e rang et nous sommes parmi nos partenaires européens dans une situation médiocre. Or, c'est là, pour reprendre le deuxième sens du mot crise, les Anglais en 1995, constater qu'ils étaient dans une situation qui n'était pas très supérieure à la nôtre. Et là, on voit deux attitudes différentes. En 1997, les Anglais s'aperçoivent que dans les écoles élémentaires et sur le territoire du Royaume-Uni, lui-même divisé en 150 circonscriptions primaires, je ne sais pas quel est leur nombre en France, mais ça doit être du même ordre, peut-être 200, je ne sais pas. Il y avait la moitié des écoles qui marchaient bien, un quart qui était moyenne, médiocre, et un autre quart qui demandait une aide très importante si on voulait augmenter leur niveau.
Donc un déséquilibre en fonction des régions, très clair.
Non pas entre les régions, mais à l'intérieur d'une même région, d'accord, entre les écoles. Et donc, on a accepté, non sans difficulté certainement, de faire une évaluation de façon à savoir quelles étaient les écoles dans lesquelles ça marchait bien, les régions. Bon.
Ça a été une décision nationale
Une décision nationale et une décision, je dirais, beaucoup plus jacobine que le jacobinisme français ne le
d'accord.
permettrait. C'est-à-dire qu'on a créé un secrétariat d'État, le gouvernement Tony Blair a créé un secrétariat d'État à la « literacy », c'est-à-dire à l'étude, au fond, des compétences de base des enfants. Et on a fait une action. Le territoire national a été divisé en 10 grandes régions. Et dans les 150 régions, des actions spécifiques ont été menées.
Donc une volonté politique, une véritable volonté politique.
Une volonté politique. Une volonté politique et une volonté, je dirais, jacobine. C'est-à-dire qu'il y a eu une action de l'État dans l'ensemble du territoire national. Bon. Nous savons, en France, les enquêtes qui ont été menées. Je prends un exemple très simple. La région Auvergne, le conseil régional de la région Auvergne, a publié en 2001 un livre intitulé « L'exclusion en Auvergne ». Et parmi les thèmes abordés, dans, non pas le conseil régional directement, mais préparé par le comité économique et social de la région, il y a un rapport remarquable qui montre qu'à l'intérieur de cette région, il y a des inégalités flagrantes entre les écoles, entre les territoires, et donc que des actions spécifiques doivent être menées. Voilà l'évaluation. Je prends un troisième exemple.
Est-ce que les différences se font ressentir entre le public et le privé, par exemple, dans une même région, ou est-ce qu'on ne parle là que de l'enseignement public ?
Non. C'est... D'ailleurs, c'est une région dans laquelle l'enseignement privé n'est pas très important, mais je ne pense pas que ce soit un problème de public et de privé. C'est un problème, si vous voulez, qui est un problème général. Il peut y avoir des inégalités, mais qui ne sont pas dues, qui peuvent avoir des causes extrêmement diverses. Mais l'idée, c'est qu'une évaluation permet une action qui peut être diversifiée. L'action n'est pas nécessairement la même pour corriger ces inégalités.
Alors, est-ce qu'il y a la volonté chez nous de passer à l'acte et de faire cette véritable évaluation, ce travail de fond ?
Alors,
est-ce que ce rapport, plus la fameuse loi en préparation dans les cahiers de François Fillon, qui devrait voir le jour début 2005 si tout va bien, est-ce qu'avec ces éléments-là, on va arriver à ce type de réflexion de fond sur le système scolaire ?
Alors, ça, c'est une décision politique. Techniquement, c'est une chose faisable. Et si vous interrogez les services compétents du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire le service d'évaluation la direction d'évaluation et de prospective que M. Tello a dirigé en son temps, bien entendu, les bons statisticiens, aussi bien du ministère de l'Éducation nationale que de l'INSEE, sont tout à fait capables de faire ce genre d'études.
Tout à fait capables, mais pour l'instant, elles n'existent pas.
Elles existent, mais elles ne sont pas généralisées parce que on a préféré une évaluation d'un type différent, qui est une évaluation centrée sur l'aide qui peut être apportée à un professeur dans une classe pour repérer les lacunes de ses élèves, ce qui est une mesure absolument nécessaire, bien sûr. Il n'y a aucune critique à faire sur ce type d'évaluation, qui est un type d'évaluation dont chaque professeur dans sa classe a besoin. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante si on veut avoir une politique nationale.
Ça signifie, Bertrand Sassana, que l'une des pistes de réflexion, on ne parlera pas de réforme, mais enfin...
Ce n'est pas une piste de réflexion, c'est une piste d'action.
D'action,
c'est une
justement.
Action.
Justement, réflexion pour agir ensuite. Ça passe aussi par la formation des maîtres, donc.
Alors, ça, c'est un autre problème qui est très important en France. Un des soucis des ministres successifs, souci légitime, c'est que la France rejoigne les autres nations comparables dans lesquelles les professeurs du premier degré, les professeurs des écoles, ont un statut et une rémunération qui est à peu près semblable à celle des professeurs de collège.
Quels sont ces pays ?
En France,
par exemple. Quels sont ces pays, par exemple ?
Tous les pays comparables aux nôtres, l'Allemagne, l'Angleterre, d'accord, les pays scandinaves, l'Espagne, etc. Je ne connais pas le détail,
mais
en gros...
dans le détail, mais voilà, pays européens
En gros, c'est ça.
De l'Europe occidentale.
Alors, en France, vous savez que les fonctionnaires sont rangés en trois catégories. Il y a catégorie A, catégorie B, catégorie C. Les instituteurs étaient des fonctionnaires de catégorie B, c'est-à-dire, dans le jargon administratif français, c'est des fonctionnaires qui n'ont pas de licence. Et donc, au cours des 20 dernières années, par étapes successives, on s'est arrangé pour que les professeurs du premier degré, les professeurs des écoles, soient recrutés parmi des jeunes gens et jeunes filles pourvus de la licence. Ensuite, ils ont une année pour préparer le concours des IUFM. Et ils ont enfin une dernière année en IUFM qui comporte moitié du temps de stage, moitié du temps d'enseignement théorique. Si je schématise et si je caricature, dirais que sur 5 années d'enseignement supérieur, ce qui est une très bonne chose, le temps consacré à l'enseignement professionnel stricto sensu, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à écrire, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à enseigner les sciences naturelles, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à enseigner l'histoire, cette formation professionnelle en IUFM comporte un grand semestre dans le meilleur des cas. Et d'ailleurs, nous ne connaissons pas la situation exacte des 24 IUFM.
Donc, que faut-il
faire ? Un pays jacobin est un pays, le nôtre, dans lequel cette information n'est pas facilement disponible. À ma connaissance, il y a eu une étude qui a été faite par le Comité national d'évaluation en regroupant des enquêtes qui ont été menées dans les années 90
sur les universités. À l'époque, vous étiez membre du Conseil.
Non, moi personnellement, je n'ai participé à aucune enquête de ce genre. Mais on a réuni cela, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu d'évaluation systématique à ma connaissance. De la même façon, je prends un dernier exemple
très simple,
caricatural. Il y a une grande querelle sur les méthodes d'apprentissage de la lecture. À ma connaissance, il n'y a jamais eu, peut-être y en a-t-il eu au cours des deux dernières années, mais jusqu'en 2002, il n'existait, à ma connaissance, aucune étude faite sur le plan national d'une évaluation comparative des différentes méthodes d'apprentissage de la lecture. C'est comme si on lançait sur le marché des médicaments ou des traitements qui n'auraient pas été testés par les laboratoires pendant une longue période de temps. Or, vous le savez, la mise en service d'un médicament, c'est à peu près 15 ans,
10 à 15 ans. Avoir l'autorisation de mise sur le marché.
La mise en service d'une réforme de l'éducation nationale, c'est un passage devant les instances consultatives de l'administration centrale, s'il y a un feu vert, et il y a toujours un feu vert si on crée une discipline supplémentaire. Il en existe, par exemple, plus de 350 d'enseignés dans l'enseignement secondaire.
Ça paraît beaucoup.
Pardon ?
Ça paraît beaucoup.
Eh bien, c'est ça.
Ouais. Alors, à vous entendre, Bertrand Sassarnat, j'ai le sentiment qu'on débat beaucoup dans notre pays, on fait des kilomètres de rapports, on s'exprime dans les médias, mais on n'agit finalement pas beaucoup. Je dirais que le dernier coup médiatique lié à l'école, ça a été le fameux mammouth de Claude Allègre, mais le fameux mammouth de Claude Allègre, on a le sentiment qu'on est toujours dans la même problématique aujourd'hui.
Non, je crois que ça, c'est une vision qui est complètement fausse.
Alors, rétablissez la vérité.
Je vais vous dire.
C'était volontairement provocateur de ma part.
Très bien. Bon, j'ai été pendant plus de 10 ans recteur. Donc, j'ai visité des centaines d'établissements secondaires, j'ai visité aussi des écoles primaires, j'ai eu des contacts avec de très nombreux inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'éducation nationale, IDEN, etc. Mon sentiment, c'est un sentiment très positif. Je veux dire par là que j'ai rencontré des gens de très grande qualité, d'un très grand dévouement. Donc, les conditions subjectives ou les conditions affectives d'une action sont, me semble-t-il, réunies. En revanche, je crois qu'il faut avoir le courage, et c'est une chose qui n'est pas toujours très bien perçue en France, d'oser évaluer ce qu'on fait, d'oser regarder la réalité en face.
C'est jamais le mot qu'on cite, le mot évaluation. On nous parle toujours de réforme et ça tourne toujours au bras de fer entre les enseignants et les politiques.
Pour une raison qui est une raison très curieuse et très bizarre d'ailleurs, c'est qu'on a peur qu'une évaluation soit comme une inspection. Et l'inspection est à la fois nécessaire et en même temps, c'est une chose qui a un caractère, je dirais, individuel, et en même temps les professeurs le ressentent comme quelque chose qui est susceptible de peser sur leur carrière positivement ou négativement.
Bon, ça paraît cohérent, on est évalué à tous les stades de son existence.
Une évaluation, c'est une chose tout à fait différente. Une évaluation, c'est rechercher les conditions pour qu'une action politique, c'est-à-dire une action collective, puisse être entreprise de manière à améliorer les causes sociales qui mettent en situation d'échec ou de marginalisation un certain pourcentage d'enfants d'une classe d'âge déterminée. Ce pourcentage, on débat, est-ce qu'il est de 12%, est-ce qu'il est de 13%, est-ce qu'il est de 15%, etc. Le problème est à laisser à des spécialistes. Mais quel que soit le chiffre, c'est dramatique de constater que si ce chiffre est, par exemple, de 12% quand les enfants ont 10 ans, lorsqu'on fait la journée de la JAPD, la journée d'aptitude à la préparation à la défense nationale, c'est-à-dire à la journée à laquelle sont conviés les jeunes citoyens français à partir de 17 ans, on s'aperçoit que ces jeunes gens, ceux d'entre eux qui ont été simplement à l'école primaire et au collège, mais qui n'ont préparé aucun diplôme professionnel type CAP ou BAP, d'après les fiches d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale, de la direction de l'évaluation, 25% de ces enfants, disons les moins diplômés de l'ensemble du système, ont des difficultés. Autrement dit, même la création du collège unique que M. Habib a fait dans cet état d'esprit, c'est-à-dire essayer d'éviter qu'il y ait des filières qui canalisent les enfants dès 11 ans ou dès 12 ans, et c'était une ambition généreuse et probablement nécessaire. Malgré tout, nous constatons en fin de course que l'action n'a pas quand même été probablement couronné entièrement de succès.
Merci beaucoup Bertrand Sassana. Vous restez avec nous, la suite de ce débat consacré, enfin de cette discussion consacrée à l'avenir de notre école, c'est dans quelques instants sur Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
On retrouve Nicolas Dose.
C'est la troisième partie d'éclairage. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Saint-Cernin, qui a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en mai 2002 dans la section philosophie. Alors avec lui, je parle de l'école, de l'avenir de l'école de France, en raison de, notamment de sa grande expérience, puisqu'il a été recteur d'académie et d'université en Bourgogne, en Lorraine, à Paris. Il est également passé
par...
À Créteil, oui, d'accord. Il est également passé par le ministère de l'Éducation nationale dans les années 80. Et puis, dans les années 90, cette fois-ci, Bertrand Saint-Cernin, vous avez été membre du Conseil national d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'idée de traiter ce sujet m'est venue évidemment à la suite de la remise du rapport sur l'éducation et l'école par Claude Tello, qui a remis ce rapport à Matignon mi-octobre. Il aura fallu un an de travail pour ce rapport, l'audition d'une centaine d'experts, l'organisation de plus de 25 000 débats avec des professeurs et des parents d'élèves. Au final, voilà, 150 pages qui serviront a priori de base notamment au ministre de l'Éducation nationale, François Fillon, pour préparer un texte, un projet de loi dont on devrait connaître la teneur sans doute au début de l'année 2005. Alors Bertrand Saint-Cernin, on évoquait tout à l'heure la formation des maîtres. Reste que les maîtres ne sont pas les seuls à faire l'école. Il y a également les élèves. On parlait de l'échec scolaire qui existe évidemment. Quelle est l'analyse qu'on peut en faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique que des jeunes, dans un monde où les techniques ont pourtant beaucoup progressé, où on devrait tous avoir plus de facilité à accéder à un bon niveau de lecture, comment se fait-il qu'on puisse se retrouver en situation d'échec scolaire? Est-ce que le rôle des parents est fondamental? Est-ce qu'il y a une démission parentale? Et est-ce que aussi l'environnement médiatique dans lequel on évolue finalement pervertit l'enfant en l'éloignant du socle de base dont on parlait en début d'émission?
Je ne suis pas mieux placé qu'un autre pour répondre à des questions.
Vous êtes quand même un observateur
très difficile.
C'est donc difficile, mais...
Je me limiterai aux choses que je connais un tout petit peu, si vous voulez. Et la question que vous posez, c'est est-ce que les conditions dans lesquelles on met les enfants pour qu'ils apprennent du mieux possible sont les conditions optimales? Alors, et d'autre part, est-ce que l'attitude générale d'une société à l'égard de l'enseignement est déterminante sur les résultats scolaires des enfants? Alors, si on prend la seconde question, sur laquelle on a malgré tout des informations, on peut dire que dans tous les pays comparables aux nôtres, il y a 100 ans, il y a une attente considérable des familles et de l'ensemble de la société à l'égard de l'école. Et donc, on a la croyance, partagée par les parents, par les enfants, que ce qu'on appelle aujourd'hui l'illettrisme, c'est un néologisme qui a été introduit en français en 1977 par Athédée Carmonde. Ça n'existait pas avant. On n'employait pas du tout ce terme et on s'en portait beaucoup mieux.
Parlait d'analphabète auparavant.
Et c'était différent. Parce que analphabète, ça veut dire qu'on n'a jamais d'accord, eu l'occasion absolument. D'apprendre à lire et à écrire. L'illettrisme désigne l'état scolaire ou la réussite insuffisante d'un adolescent ou d'un enfant qui, après plusieurs années de scolarité, n'a pas obtenu un niveau jugé suffisant en lecture, en écriture, en calcul. Alors, c'est une notion qui est très ancienne. Par exemple, Saint Augustin, il y a donc plus de 16 siècles, avait une expression pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui les illettrés. On appelait ça des minus instructi, c'est-à-dire ceux qui étaient moins instruits que les autres. Et finalement, cette qualification me paraît meilleure parce qu'il y a un continuum entre le degré très bas et puis un degré très élevé. Vous savez que Goethe, quand il avait 80 ans, confiait à Eckermann, qui était son interlocuteur, qu'il avait l'impression qu'il savait à peu près lire. Alors, ce problème de la lecture est un problème très étonnant parce que nous autres, adultes et habitués, nous utilisons simultanément et sans nous en rendre compte deux techniques complètement différentes quand nous lisons. Nous devinons et nous éplons. Nous éplons les mots que nous avons du mal à reconnaître et pour les autres, nous les devinons. Un de vos confrères, Luc Bronner, s'est amusé à publier dans Le Monde, il y a quelque temps, un texte dans lequel tous les mots comportaient des interpolations de lettres. Un lecteur exercé lit très bien le texte, un lecteur qui n'est pas exercé ne comprend absolument rien.
Absolument.
Alors, ces deux techniques, un lecteur expérimenté les mélange et saute de l'une à l'autre tout le temps. Les enfants auxquels on apprend par deux méthodes différentes, tantôt leur faire deviner des mots complets, le sens de mots complets, tantôt les faire épeler, la première méthode étant dite globale, la seconde méthode étant dite syllabique, 90% ou 85% des enfants se débrouillent en passant de l'une à l'autre. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que pour 15% d'enfants, probablement la méthode dite traditionnelle, mais qui est une méthode que nous employons, que même les lecteurs avertis emploient, et qu'ils emploient tous dans des langues, par exemple, qui ont des mots composés très longs, comme l'allemand. Dans l'allemand, vous ne pouvez pas employer une méthode globale, vous ne reconnaissez pas un mot qui a 25 lettres. Vous l'éplez et vous le coupez. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut se dire qu'il faut réfléchir sur des choses aussi simples que ces méthodes d'apprentissage. Ça, c'est un premier point. Dans ce domaine-là, on sait depuis très longtemps, vous me posiez tout à fait au début de l'émission, est-ce que c'est important les récitations, les dictées? Si vous interrogez des neurophysiologistes qui ont étudié la mémoire, ils vous disent que nous avons l'illusion de croire que nous nous souvenons d'une façon absolument pure d'un événement vécu. En réalité, nous reconstruisons. Et les techniques de remémoration, qui sont la base de la récitation, ont probablement, disent les neurophysiologistes, un effet bénéfique pour la fixation des souvenirs et du savoir. Il n'empêche qu'il faut maintenant, et c'est là la grande difficulté de l'enseignement, c'est qu'il faut en même temps maintenir, éveiller les enfants et donc ne pas leur faire perdre leur capacité d'initiative. Donc, il faut faire comme font d'ailleurs les professeurs de musique, où ils font à la fois faire des exercices très répétitifs et en même temps des exercices très originaux, très inventifs. Voyez-vous, c'est là la grande difficulté de ce métier.
Mais si on devait aujourd'hui essayer d'analyser les causes de l'échec scolaire, est-ce qu'elles sont à chercher dans l'école ou dans l'environnement social des enfants une fois qu'ils ont quitté justement les bancs de l'école ? Est-ce que des progrès, globalement, est-ce qu'il y a une réforme à imposer ? Est-ce qu'il y a véritablement une démarche à faire auprès des enseignants et de l'univers scolaire ? Ou est-ce qu'il faut aller chercher les explications en dehors de l'école, à la maison, auprès des parents et auprès de la télévision qui remplace les livres ?
Alors, l'enseignement, pendant des siècles, très exactement jusqu'en 1902, pour l'enseignement secondaire, l'organisation de l'enseignement secondaire était faite de la façon suivante. Vous aviez deux catégories d'enseignants. Vous aviez les professeurs et vous aviez des répétiteurs, parce qu'on estimait qu'il fallait un temps à peu près égal consacré aux cours et consacré à l'apprentissage des leçons et à faire les devoirs.
Apprentissage et approfondissement, en fait.
Approfondissement, apprentissage. Et dans les locaux eux-mêmes, vous aviez des salles d'études et vous aviez des salles de classe. Et quand vous regardez l'architecture des établissements qui ont été construits au XVIe siècle, au XVIIe siècle, ou même au XIXe siècle, vous avez cette différence. Puis, vous avez une explosion des effectifs. Qu'est-ce qu'on fait ? On transforme les salles d'études en salles de classe. Et donc, pour des raisons qui n'ont pas été des choix pédagogiques, mais qui ont été des nécessités financières et architecturales,
l'étude a disparu, donc.
Peu à peu diminué l'importance des salles d'études.
Et ça vous semble donc un élément clé ?
Alors, ça a été un élément clé, parce que, si vous voulez, c'était simplement une remarque strictement physiologique. On avait constaté à travers le temps que, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves, un professeur ne fait un bon cours et un cours utile à ses élèves que s'il prépare son cours et s'il corrige des devoirs. Et donc, encore aujourd'hui, dans le service d'un professeur et dans le financement, dans la rémunération d'un professeur, on compte non seulement les heures de cours qu'il fait, mais bien entendu, les heures qu'il passe à préparer. Un professeur du second degré fait, par exemple, je ne sais pas, 480 heures devant les élèves, mais il est rémunéré sur une base de 1800 heures par an, à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Bon, pour les élèves, c'est la même chose. Il faut du temps. Alors, les enfants qui ont chez eux des parents qui peuvent s'en occuper, des parents dont la langue maternelle n'est pas une langue étrangère mais le français, ou qui ont du temps devant eux, etc., sont bien entendu dans une situation plus favorable que les enfants qui doivent se former dans le cadre scolaire proprement dit, qui implique à la fois des cours et des heures pour apprendre les leçons et faire les devoirs. C'est aussi simple que ça.
Est-ce qu'il ne faut pas remettre en service ces répétiteurs de manière à offrir ce temps d'intégration nécessaire ?
Alors, c'est effectivement... Alors, ces répétiteurs existaient. Moi, je les ai connus encore quand j'étais jeune professeur. C'était ce qu'on appelait les adjoints d'enseignement.
Moi, je ne crois pas les avoir connus.
Comment ?
Je ne crois pas, moi, personnellement, les
avoir connus. Non, vous ne les avez pas connus.
Ayant moins de 40 ans.
En revanche, comme recteur, j'ai eu... j'ai vu toute la transformation, d'ailleurs, qui était en un sens souhaitable et nécessaire, étant donné l'explosion des effectifs et la très bonne formation de ces adjoints d'enseignement. Ils sont devenus professeurs, comme d'ailleurs ils l'étaient. Mais ils l'étaient quelquefois une partie de leur temps, voyez-vous. Ils effectuaient des remplacements, par exemple.
Donc, si on résume un peu les grands points qu'on a évoqués depuis le début, la notion de temps d'intégration de l'enseignement est essentielle pour les élèves, et vous insistez aussi beaucoup sur l'évaluation. Quelles seraient les autres pistes qui vous viendraient à l'esprit, qui seraient des choses pas trop cher à mettre en place, parce que les réformes aujourd'hui envisagées sont des réformes hors de prix. La mise en place du rapport Tello, on estime que ça coûterait 10 milliards d'euros, donc je vous laisse imaginer la difficulté du gouvernement pour débloquer les crédits. Que faire aujourd'hui dans un minimum de temps pour avoir un résultat assez rapide ?
Écoutez, quand on, si je regarde, je suis un vieux monsieur, mais si je regarde par exemple les horaires des classes quand j'étais en classe, avec des horaires qui était plus faible, on pouvait à la fin de ses études secondaires, passer la même année le bac de mathématiques et le bac de philosophie. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans la période 1960-1990, le coût de l'enseignement secondaire, le coût par élève, a augmenté considérablement parce que on a introduit un nombre de disciplines et un nombre d'heures d'enseignement plus élevé qu'il n'existait auparavant. Sauf dans les disciplines fondamentales, comme le français, comme la philosophie, comme les mathématiques, où souvent les classes sont restées plus longtemps à effectif complet.
Suite et fin de cet entretien avec Bertrand Saint-Sernin sur l'avenir de l'école, dans quelques instants, vous êtes à l'écoute de Canal Academy.
Canal Académie.
On retrouve Nicolas Dose.
C'est la quatrième et dernière partie d'éclairage. Je reçois aujourd'hui Bertrand Saint-Sernin pour évoquer l'avenir de l'école, sujet particulièrement brûlant dans l'actualité après le rapport Tello qui fut remis à Jean-Pierre Raffarin mi-octobre. 150 pages intitulées Le miroir du débat. 150 pages rédigées à la suite de plus de 26 000 débats qui ont réuni des professeurs et des parents sur comment moderniser notre école, comment la rendre plus performante. On a évoqué les professeurs, on a évoqué les élèves. En préparant cette émission, Bertrand Saint-Sernin, vous me disiez que la flexibilité était plus grande que l'on croit dans le système enseignant et qu'on pouvait finalement confondre assez rapidement les actions et les réformes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Je veux dire par là que l'enseignement est au fond une institution beaucoup moins rigide qu'on a tendance à le dire à l'extérieur. Tout d'abord parce que les professeurs sont en même temps, la plupart du temps, des parents d'élèves. Et donc, ils ont une double expérience, je dirais l'expérience de leur classe, l'expérience de leurs enfants, l'expérience de leurs collègues, encore qu'on sache souvent jamais très très bien, au fond, comment les choses se passent dans les classes de ces collègues ou dans les cours. Mais malgré tout, il y a donc, si vous voulez, une expérience qui est mobilisable. Il y a en même temps une formation de base qui est une formation solide en France et une bonne volonté qui est réelle. Autrement dit, ce sont des personnes de qualité.
Pourtant, dès qu'on veut toucher à quelque chose, généralement, on a toujours des syndicats type SNES, par exemple, qui est quand même le grand syndicat du second degré, qui, par exemple, à la suite de la publication du rapport Tello, disait « Voilà, on va nous ramener la scolarité au niveau des années 60. On lève le spectre de Jules Ferry dès qu'on a l'impression qu'on va toucher à quelque chose. » Et d'ailleurs, les gouvernements successifs hésitent tous à s'approcher trop près du soleil de peur de se brûler les ailes en touchant à l'enseignement. Donc vous parlez finalement d'une bonne volonté et d'une dynamique intellectuelle qui va vers l'avant, mais est-ce que dans les faits, on va pouvoir traduire ça par des progrès ?
Il y a quand même des exemples. Ce qui est très frappant, nous évoquions au début de cette émission l'exemple de la Grande-Bretagne sur le problème justement de l'école élémentaire, où les Anglais, constatant qu'il y avait des inégalités très importantes entre les écoles, se sont dit « il faut que nous fassions une action privilégiée en direction des écoles dont les résultats sont statistiquement plutôt moins bons que les autres ». Ce dont on s'aperçoit, c'est que les résultats ont suivi très rapidement. Autrement dit, il y a beaucoup plus de souplesse et de flexibilité dans un système qu'on ne le croit. Un système scolaire n'est pas une réalité figée. Simplement, il est quelquefois difficile de bien définir l'action utile et il est encore plus difficile d'en modeler les modalités suivant les lieux d'application.
Est-ce que ce rapport Tello et probablement le projet de loi qui va suivre sont selon vous des étapes importantes vers un vrai changement. Est-ce que vous êtes confiant finalement dans le fait que on va commencer à passer à l'acte véritablement ?
Mais vous savez, les enseignants, par définition, vous passez à l'acte dès que vous entrez dans une salle de classe. Autrement dit, il y a dans le fait même d'enseigner, d'avoir des élèves, c'est une action permanente. Enseigner est une action, apprendre est une action, et enseigner est une action. Enseigner est une action, et le propre de l'action, c'est qu'il faut en général avoir plusieurs fers au feu. C'est-à-dire que chaque classe est différente, et la même classe, à des moments différents de l'année, ne peut pas être abordée de la même façon. Alors, bien entendu, l'influence globale de la société existe. Il est certain que on parle, par exemple, des problèmes de violence plus importants peut-être maintenant, croit-on, qu'ils n'étaient il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Mais les problèmes il y a 40 ans ou 50 ans ne se posaient pas du tout de la même façon, dès l'instant où, d'une part, les garçons et les filles étaient séparés, et deuxièmement, en tout cas dans l'enseignement secondaire, vous aviez dans l'enseignement lui-même, très curieusement, dans les jeux collectifs, l'idée de l'agressivité naturelle des enfants était une chose qui était prise en compte. Autrement dit, ça ne paraissait pas du tout une anomalie, et il y avait des jeux collectifs qui en tenaient compte. Alors, il est évident que, d'une part, une très grande féminisation du corps enseignant dans l'enseignement primaire et même dans l'enseignement secondaire modifie peut-être ses perspectives, et la mixité également peut modifier les comportements, je dirais, des élèves, mais d'une manière générale, je veux dire qu'il y a, si vous voulez, des règles du jeu qui, par la nature des choses, doivent évoluer, et c'est ce que le règlement intérieur, d'ailleurs, des établissements essaie d'expliciter dans la mesure des choses, et c'est probablement assez variable aussi d'un endroit à l'autre.
Alors on voit que le discours politique évolue. Jean-Pierre Raffarin a remplacé le fameux objectif de 80% d'une classe d'âge qui arriverait au baccalauréat avec celui beaucoup plus vague. Alors vous allez me dire ce que vous comprenez par cette formule, parce que moi j'ai du mal à en voir les tenants et aboutissants. Donc il veut remplacer cet objectif par la reconnaissance des compétences de 100% des élèves. Moi j'ai eu l'impression que c'était juste un artifice de langage pour remplacer 80%. Par 100%, peu importe un peu ce qu'on met autour, mais le message médiatique est plus fort quand il y a 100% au milieu que 80%. Qu'est-ce que ça veut dire que la reconnaissance des compétences de 100% des élèves ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Puisque c'est quand même une déclaration publique faite aux Français.
Oui. Alors, vous savez que dans les systèmes scolaires des différents pays, le dosage entre le rôle d'une école particulière pour reconnaître la scolarité de ses élèves ou le rôle d'un examen anonyme et collectif pour reconnaître ces mêmes compétences varie. Il varie suivant les disciplines et il varie suivant les pays. Autrement dit, c'est ce que nous appelons en France le contrôle continu par rapport ou par opposition au système des examens. Et c'est d'ailleurs, c'est pas une nouveauté. C'est une chose qui existe depuis des siècles en France. Par exemple, dans le vocabulaire pour prendre des enseignants qui ont essaimé à travers toute l'Europe depuis 5 siècles, les jésuites, ils distinguaient l'excellentia, c'est-à-dire les compositions ou les examens, et la diligentia, c'est-à-dire le soin continu, qui étaient les exercices qu'on fait tous les jours ou toutes les semaines, qui sont notés, les devoirs et tout ça. Et ce qu'on appelle le contrôle continu, c'est ce que pendant des siècles, on a appelé dans le système enseignant d'un terme latin qu'on appelait la diligentia, qui en français a donné la diligence, c'est-à-dire le soin, la conscience que l'on a tous les jours pour accomplir sa tâche. Donc ce n'est pas une révolution, si vous voulez. Et je pense que ce que notre Premier ministre a voulu dire, qui est très raisonnable, enfin, je ne me permets pas de juger de ses paroles, mais je veux dire, c'est une chose tout à fait simple et importante de dire que les professeurs doivent aussi reconnaître le travail accompli semaine après semaine dans leur classe par leurs élèves.
Mmh. Est-ce qu'on a une idée de la valeur aujourd'hui des méthodes d'apprentissage qu'on utilise ? Est-ce qu'on peut se dire qu'elles sont abouties, qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont très perfectibles ?
Vous avez en France une disposition qui remonte à l'époque où le monopole de l'enseignement était un monopole d'Église en France, sous l'Ancien Régime, pendant des siècles. L'enseignement était fait par l'Église. Et quand l'enseignement primaire laïque a été constitué, on a donné aux instituteurs des privilèges et des responsabilités qui sont celles d'un curé dans son village. J'espère que je ne froisserai pas mes collègues enseignants. C'est-à-dire que le maître, comme le curé du village, à la disposition des livres d'enseignement. Il est le maître chez lui, comme le curé a le droit de faire son sermon. Et donc, vous avez un système dans lequel le choix des livres, et donc le choix de la pédagogie, est quand même laissé à l'initiative. Si vous prenez, par exemple, les États-Unis à l'heure actuelle, le choix, par exemple, des manuels de l'enseignement primaire se fait par État. Et donc alors, ça entraîne d'ailleurs des conséquences très drôles. Ouais. C'est que on se dit dans un État qui n'a pas accès à la mer, mais c'est embêtant de prendre des exemples dans les livres où on voit les petits-enfants qui se baignent. Dans un État qui n'a pas de montagne, c'est embêtant que les petits-enfants voient qu'ils ont des petits camarades qui ont la chance de grimper dans les montagnes, etc. Alors, chaque système a ses inconvénients. Mais donc, vous, voyez-vous, il y a cette idée quand même d'une responsabilité qui est assez fortement individualisée sur le choix des méthodes et tout ça. Alors bien entendu, le rôle de l'inspection est important, le rôle, je dirais, des réunions de professeurs entre eux également, et le rôle des IUFM aussi.
Bertrand, ça sert à une dernière question dans ce vaste débat sur, sur un sujet essentiel qui est l'école en France et le système scolaire. Est-ce que les académies sont sollicitées pour leurs compétences, leur expertise et leur expérience sur pas mal de domaines, notamment celui-ci ?
Alors, en ce qui concerne, par exemple, l'enseignement des sciences, l'Académie des sciences s'est impliquée à travers une action comme la main à la pâte, et qui est d'ailleurs très intéressante parce que elle modernise des types d'enseignement qui existaient il y a un siècle chez nous, 80 ans, à travers les leçons de choses, où on avait à la fois le souci d'utiliser les moyens du bord, je dirais, qu'avait un maître dans sa classe. J'ai trouvé, par exemple, des manuels qui ont près de 100 ans, dans lesquels, pour faire comprendre aux enfants que l'oxygène pouvait manquer dans une salle, avec une bougie, on montrait, par exemple, que l'oxyde de carbone pouvait se déposer et donc que la bougie commençait à flageoler, etc. Et que si on mettait la bougie plus haut ou autrement, on avait... Et la main à la pâte a reconstitué cette idée, c'est-à-dire tirer parti de tous les éléments dont disposent des enfants et des maîtres dans une classe pour intensifier le contact avec les sciences naturelles et avec, je dirais, le savoir positif sur le monde. N'oubliez pas qu'il y a 100 ans, les instituteurs faisaient des cours pour les adultes. Et que, je prends par exemple un département que je connais, qui est la Haute-Garonne. En Haute-Garonne, les effectifs d'adultes, juste avant la guerre de 14, étaient très importants parce que la société tout entière sentait la nécessité de l'instruction primaire, c'est-à-dire celle qui sert de base.
Merci infiniment Bertrand Sassana d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous avez donc été élu à l'Académie des sciences morales et politiques il y a maintenant un peu plus de 2 ans dans la section philosophie. Éclairage est maintenant terminé.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.